avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 912 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'appellation Saint-Amour, un magnifique cru du Beaujolais, les vignes non greffées en France. Le Vino Quiz pour gagner un excellent cadeau en jouant sur invinoradio.tv et puis un grand débat consacré au développement durable dans les vignobles. À mes côtés, ils sont trois, la formidable Hélène Pio.
Bonjour.
Hélène. Vous êtes radieuse, Hélène.
Merci.
Philippe Forbach et David Cobol, vous êtes très beaux tous les deux aussi.
On est radieux aussi.
Vous trop
beaux.
Est-ce qu'on est radieux?
Et alors, pour commencer cette émission...
Vous n'êtes pas irradié, c'est déjà pas mal.
Vous n'êtes pas irradié et vous n'avez pas de corona.
Alors, on retrouve radio, donc, radio,
Hélène Pio, donc chef de rubrique au magazine Régal, pour nous parler d'une bodega espagnole qui est assez étonnante, qui est née, tenez-vous bien, en 1927 par Adil avec une bande de copains. 11 potes.
Absolument, 11 potes en 1927. Leurs petits-enfants sont toujours aux commandes. Je vous emmène effectivement en Espagne, à côté de Valladolid, à Penafiel, 180 km au nord de Madrid, grosso modo, dans la bodega Protos. Alors Protos, ça veut dire premier en grec. Et effectivement, les 11 dingues qui ont mis ça sur pied en 1927 et ont voulu être les premiers, c'était des pionniers. On peut dire qu'en quelque sorte, cette bande de copains a inventé l'appellation Ribera del Duero.
Ah quand même, oui, oui, c'est pas... N'importe quoi, hein.
On est en 1927, le vin c'est un aliment quotidien à l'époque, mais certainement pas un produit de luxe. La région produit comme un peu partout, mais ni plus ni moins, des vins un peu rustiques.
Il y avait quand même Vega Sicilia, non, déjà?
Oui, mais qui n'avait pas l'aura dont elle jouait à l'heure actuelle. Et puis ces 11-là se disent, il y a effectivement un terroir, il y a des trucs qui frémissent à droite à gauche, il y a moyen de faire quelque chose. Ils se lancent, je vous la fais courte, on est 93 ans après, il y a 1600 hectares. Ça vous dit un peu quelque chose ?
C'est énorme, c'est énorme.
C'est énorme, c'est gigantesque. Et en fait, ils se pensaient tellement propriétaires de leur territoire, ils étaient tellement sûrs que ça allait marcher leur truc dans toute la région, qu'ils ont lancé, créé et déposé l'appellation Ribera del Duero. Bon, en 1982, ils ont été sympas, ils l'ont rendue et ça a pu devenir une appellation. Mais c'était à eux, en fait. C'est la bodega Protos.
Ça leur appartenait,
Protos,
quoi.
Voilà, c'est la bodega Protos qui avait déposé l'appellation Ribera del Duero. Alors, ces vins, on peut les découvrir sur place. Il y a un œnotourisme génial.
Alors ça, ils sont quand même très très forts. Je crois qu'ils accueillent 48 000 visiteurs par an.
Absolument.
C'est énorme, Hélène, c'est énorme.
C'est gigantesque. Qui sont accueillis dans cette bodega incroyable, on dirait des serres en bois et en verre. C'est Sir Richard Rogers qui nous a...
Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Rogers, encore dedans?
Il a fait l'hôpital Pompidou à Paris, il a fait un tas de trucs.
Il a fait Rabbit aussi, alors.
Voilà,
ça s'est fait.
Oui.
Le centre Pompidou, j'ai dit l'hôpital. Je pensais le centre, excusez-moi.
Oui.
Même s'il y a des malades dans le centre Pompidou.
Oui,
bon, c'est pas la fonction.
Plutôt bien réussi, d'ailleurs, ce centre Pompidou.
Le centre, excusez-moi. Magnifique bodega de signé Sir Richard Rogers et franchement allez-y,
quand
vous êtes à Madrid, allez vous offrez une petite
et alors si vous passez dans le coin, il faut contacter Jimena Lassa, qu'on salue, hein, qui est la directrice marketing de cette bodega.
Oui, absolument,
très dynamique. Elle est née au Panama, je ne sais pas si vous savez.
Panaméenne qui a déménagé en Espagne par amour pour son mari. Et qui mène Protos d'une main de maître, et vraiment c'est un bel endroit. Vous aurez plein d'infos sur le site bodegasprotos.com, en un seul mot, bodegasprotos. Les vins valent entre 8 et 60 euros, donc il y en a pour
toutes les bourses.
Il y a toutes les gammes. Les cépages, on n'en a pas parlé, parce que
oui,
c'est cépages logiques, locaux, hein, en rouge Tempranillo et en blanc Verdejo. Et puis beaucoup de rosé. Ouais,
potentiel de garde, ça peut vieillir, ça, Philippe Forbach?
En général, les vins de la Ribera del Duero, oui, ça vieillit.
C'est-à-dire quoi? C'est plus
dizaines
ans,
d'années sans aucun problème. Et si on évoque Vega Sicilia, j'ai goûté récemment un Vega Sicilia qui avait 60 ans d'âge, un âge certain, comme on dit.
Un magnifique âge,
Un certain âge. Et qui était encore extrêmement présent. Vraiment ouais, très très
donc
bon.
Encore avec du potentiel.
Exactement.
Quoi. Là, ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Oui, c'est très bien ça. Merci beaucoup, Hélène Piau. Invino Sud Radio retrouve maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, pour continuer dans la beauté, dans l'amour, Philippe, et l'amour du vin, le cru du Beaujolais.
Exactement, le fameux Saint-Amour que l'on célèbre souvent le 14 février, mais je crois que la date.
C'est tous les jours, l'amour. Hélène, c'est tous les jours l'amour, non ?
Regardez, j'ai trois amoureux dans le studio, déjà pour commencer. Ouais.
Voilà, et je crois que c'est le 11 mars, la Saint-Amour elle-même, mais néanmoins, c'est vrai que tous les jours on peut fêter ça. Quand on aime les choses, quand on aime le vin, quand on aime la vie et les gens, effectivement, on peut penser à ce saint auquel il faut se vouer le plus souvent possible. C'est un cru du Beaujolais néanmoins, pour revenir sur terre, situé à l'extrême nord plutôt de la partie beaujolaise, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Mâcon. Alors c'est sur la commune de Saint-Amour-Bellevue, parce que non seulement c'est Saint-Amour, mais en plus c'est une belle vue, ce qui multiplie les plaisirs qu'on peut avoir dès qu'on a cette appellation et cette région, que tire son nom effectivement ce cru. Ça vient de le nom d'un légionnaire qui s'appelait Amore. Ah. Amore. Alors il est Amore, ça aurait pu être Amore, et Amour. Ou à mort, et ce légionnaire est devenu missionnaire en Gaule après avoir échappé à un massacre. Donc il s'est il a ensuite évangélisé et fait des actes de bienveillance. Ce nom est beau. C'est vrai qu'il évoque à la fois le vin, mais aussi effectivement cet amour qui nous guide dans la vie, en tout cas on vous le souhaite. Et c'est uniquement du vin rouge. Et pourtant, dans le décret d'appellation, là, ça, c'est un petit point que je voulais souligner, c'est que finalement, le gamay, le fameux gamay noir à jus blanc qu'on utilise dans le Beaujolais, il peut rentrer qu'à 85%. Enfin, il peut être à 100%, mais il est autorisé. Et dans les crus du Beaujolais, et notamment le Saint-Amour, dans le décret d'appellation, il y a deux autres cépages qui sont autorisés. C'est pas, on ne le sait pas toujours.
Chardonnay.
Exactement. Et le gamay. Deuxième.
Ah, le pinot.
Non.
Non.
Ah. C'est une note blanc.
Joker.
Aligoté.
Aligoté.
Exactement.
Ah, oui.
Et donc, aligoté, c'est un cépage japonais. Aligoté.
Aligoté. Voilà. Kozai
Mushita.
Et donc.
Ça, c'est les ravages du coronavirus.
Ça, c'est clair. Il faut, mais vous savez que le vin, c'est quand même la meilleure des solutions hydroalcooliques.
Et oui.
Ça, c'est vraiment la base même de
sur les mains, définition. Vous voulez dire, Philippe.
Lavez-vous les mains.
Au Sauvignon.
Avec du Sauvignon tous les jours.
Voilà. C'est pas du gel, mais en tout cas, c'est une solution hydroalcoolique.
Et puis alors, vraiment, pour avoir zéro truc, du gros plan. Alors, oui.
Dans cette appellation, les vignes sont plantées à peu près à 250 mètres d'altitude sur des sols d'origine plutôt granitique, voire argilo-silicieux. Ça donne des vins plutôt floraux, fruités et relativement légers, le Saint-Amour. On fait des cuisons plus relativement courtes, entre 8 et 10 jours, de manière à extraire suffisamment de matière et de couleur, mais pas de trop de densité. Et donc, ce sont des vins qui ont beaucoup de charme et relativement vite. Pas nécessairement à boire en primeur, c'est un peu dommage, mais au bout d'un an ou deux...
Ça s'appelle l'amour rapide, alors.
Je vous laisse libre de vos propos, monsieur. Mais comme l'amour dure aussi, et le plus longtemps possible, c'est aussi un vin de garde. Ouais. Et donc, on peut en profiter, effectivement, au bout de 2-3 ans, mais on peut sans aucun problème les goûter une dizaine d'années après, et ça, franchement, c'est très, très intéressant. C'est l'un des fameux 10 crus du Beaujolais, hein, vous les connaissez, vous qui nous écoutez régulièrement. C'est sûrement l'un des meilleurs ambassadeurs, avec ce nom-là particulier. C'est pas nécessairement lié à la qualité des produits, parce qu'on le trouve de très bonne qualité dans les autres crus du Beaujolais, mais c'est vrai que le nom associé effectivement à l'attractivité du prix, du plaisir qu'il procure et de la qualité quand même produite, bien entendu, permet d'avoir effectivement de très jolis vins produits. 320 hectares, pour donner quelques chiffres.
Ce qui est petit ou ce qui est grand, Philippe, on se rend pas bien compte. Oh,
320 hectares, c'est pas mal. C'est
pas
moyen,
mal,
c'est moyen dans la surface du cru du Beaujolais. À l'échelle de la Bourgogne, c'est beaucoup. De la Bourgogne viticole, à l'échelle du Beaujolais, c'est assez raisonnable. Alors, quelques domaines, le domaine Pascal Berthier, par exemple, qui appartient à un jeune vigneron, qui travaille 5 hectares de vignes. Donc là, pour le coup, on est vraiment petit domaine. Il a à la fois des gamets qu'il vinifie pour son Saint-Amour, mais il a également un peu de chardonnay qu'il vinifie du côté du Mâconnais. Donc, il associe sur la propriété les deux vins. Et finalement, les vins sont très intéressants, d'ailleurs, tant en rouge sur le Saint-Amour dont on parle aujourd'hui, que sur ces blancs. Et les prix sont aussi très intéressants puisque c'est des vins qui sont entre 10 et 15 euros
en, oui, prix, c'est raisonnable,
en prix public, ouais. Ce qui effectivement me semble très, très intéressant. Le, son, 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 Fontamour a un côté très fruité, croquant, avec une petite pointe épicée qui est vraiment très agréable. Parfaitement bien, notamment sur les viandes blanches. Ça va extrêmement bien sur un filet mignon, par exemple, de porc. Un autre domaine, c'est le domaine des Pierres. Il est tenu par Jean-François Trichard, qui est un Trichard, c'est une des grandes familles de la région, et notamment de l'appellation Saint-Amour. Il a une quinzaine d'hectares, lui, pour le coup, qui produit des vins qui ont plutôt de la densité, plus de matière que la majorité des vins de cette appellation, mais qui sont plutôt axés sur le côté frais. On est un peu plus en altitude, ce qui rend beaucoup de, ce qui apporte beaucoup de digestibilité finalement à son vin, qui est souvent assez juteux en même temps, assez fin. Voilà. Le prix, c'est 10 euros.
Et c'est donc, vraiment pas cher, Philippe.
Même la première cuvée, alors il a un cru ou une
cuvée, bien sûr, spéciale, on va dire.
Un peu plus cher, mais je crois que même le premier vin est à moins de 10 euros. C'est formidable, et en même temps, c'est un petit peu dommage parce que c'est. Il faut qu'ils vivent
ça
tous ces gens-là.
Ça mériterait d'être valorisé un peu
plus. C'est vrai que le Beaujolais, il n'y a pas de mécanisation, il travaille tout à la main.
Ce sont des vins magnifiques et méconnus.
Magnifiques.
Il y a des pentes qui font que c'est un sacré boulot pour s'en occuper, et finalement, la valorisation est assez difficile.
David Cobold, chez le Beaujolais Nouveau, qui a tué le cru du Beaujolais, parce que ceux dont parle Philippe Forbrac, voilà, à 10 euros, on ne va pas vouloir payer forcément beaucoup plus cher, mais c'est un très très bon plan quelque part aujourd'hui.
Oui, c'est un très bon plan, et les crus du Beaujolais d'une manière générale sont extrêmement intéressantes. J'en ai goûté un pas plus tard que ce matin, qui était un Julianas.
Au petit déjeuner. C'est sympa.
Non, vers 11h, l'heure de l'apéro, à 11h.
Juste avant l'émission, je le note.
C'est pour me mettre en forme. Oui. Un excellent Julianas qui vaut effectivement dans ces prix-là 12 euros. Je ne pense pas, pour répondre à votre question, à la Marty, que ce soit uniquement le Beaujolais Nouveau qui a tué le Beaujolais. D'ailleurs, le Beaujolais n'est pas mort, hein, première chose.
Déjà, et c'est une très bonne nouvelle.
Nouvelle. Et puis, je pense que c'est un ensemble de facteurs, et notamment le métaillage qui a tué le Beaujolais.
Parce qu'est-ce que c'est que le métaillage,
c'est
comment
un
ça
système
marche
très
dans
particulier où beaucoup de producteurs louaient leurs vignes, et le propriétaire du foncier n'était du coup rémunéré à moitié. C'est là où la récolte est partagée entre le propriétaire et l'exploitant. Et du coup, ça ne rémunérait pas assez le propriétaire pour tenir à jour son vignoble, remplacer les pierres anciennes, etc. Donc ça posait un certain nombre de problèmes de rentabilité fondamentale.
Philippe ?
Oui, enfin, on ne peut pas ne pas citer Dominique Piron, qui fait des morgons magnifiques, qui fait aussi du Régnier, qui est pas mal du tout, qui est le dernier des 10 crus, mais qui fait un Saint-Amour qui est sur granit, qui est juste merveilleux, je trouve, à la fois tendre, fruité, rond, élégant. Enfin, c'est ce qu'on aime finalement dans ces vins de Gamay.
C'est vin canaille, c'est... non ?
Oui, canaille.
Vous aimez le dire, canaille.
Et en même temps,
mais canaille évolué.
Des dernières années, ils profitent et subissent un peu la climatologie. Par exemple, 2015, c'était extrêmement chaleureux, presque un peu alcooleux, presque méditerranéen, alors qu'on est quand même en plein cœur du Beaujolais, notre pays.
Parce que le Gamay peut produire du 14% d'alcool.
Oui, exact. Et même davantage. Même plus, température de service, franchement, moi j'aime bien les servir à température...
ambiante.
Non, au contraire, un peu plus frais, plutôt à 16 degrés. C'est là qu'on a vraiment du plaisir. Ouvrez-les un peu à l'avance, choisissez vos amis et des jolis verres.
Merci Philippe Forbrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz.
Oui, un principe simple. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Viel et un certain David Cobold. La question de la semaine dernière était « Avant de devenir viticulteur, quelle formation Marc Millade a-t-il suivi ?» Réponse A, une formation d'ingénieur. Réponse B, une formation de sculpteur, ou une réponse C, une formation d'apiculteur. Eh bien, Marc Millade, avant d'être vigneron, était ingénieur. C'est la réponse A.
Et cette semaine, Hélène ?
Cette semaine, nous voulons savoir de quel pays Rémena Laza est-elle originaire ? La réponse A, la France. La réponse B, le Panama. Et la réponse C, la Guadeloupe. Pour répondre et gagner le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Viel et David Cobold, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Hélène. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, justement le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler des vignes non greffées. Alors, c'est quoi ? C'est un peu le point technique de l'émission. Pourquoi il faut greffer une vigne ? Parce que chez moi, il y a un cep de vigne, il monte tout seul, tout va bien. Hein ?
Ben oui, si tout allait bien, tout irait bien, mais malheureusement, il y a des petits accidents dans la vie, il y a des maladies, des bestioles. Donc, comme toutes les bonnes choses, cette bestiole-là est arrivée des États-Unis. vers le milieu du 19e siècle. Je crois que le premier épisode certifié en France, c'est vers Perpignan, autour de 1860-65. Alors, il s'agit de quoi ? C'est un aphide qui vit une partie de sa vie dans le sol.
Qui s'appelle comment déjà ?
Qui s'appelle Phylloxera vastatrix. Il a eu plusieurs noms successifs, mais ça, c'est le nom certifié aujourd'hui, Phylloxera vastatrix, un aphide. Donc, il vit dans le sol, dans lequel il creuse des tunnels, et pour creuser des tunnels, pour aller chercher sa nourriture qui est fournie par les racines de certaines plantes. Aux États-Unis, comme il est endémique, les plantes viticoles ont développé une résistance naturelle, donc qui ne bousillait pas les vignes.
D'accord.
Arrivé en Europe, vers 1860, cet aphide a fait des ravages. Pourquoi ? Parce que l'espèce de vigne indo-européenne, Vitis vinifera, n'avait aucune résistance naturelle, n'ayant jamais connu ce prédateur-là. Et creusant des galeries dans le sol, pendant sa vie dans le sol, et le reste du temps, il se transporte d'une vigne à une autre, donc ça s'est répandu très vite. Sur une période d'une trentaine d'années, 25 à 30 ans, il a détruit, imaginez-vous ça, 2 500 000 hectares de vigne.
C'est énorme, colossal.
Il y avait 2 500 000 hectares de vigne en France à l'époque, et pas seulement en France, parce qu'il a détruit tout le vignoble européen, à quelques très rares exceptions près. Par exemple, Chypre n'a jamais eu de phylloxera en Europe. En dehors de ça, quelques poches ont survécu. Pourquoi ? D'une part parce qu'on ne sait pas trop, d'autre part parce que le sol est très sablonneux et parfois inondable. Notamment, c'est le cas des sables de l'Istel, où les galeries qu'il creusait s'écroulaient, écrasant la bête, opération terminée. Il ne peut pas accéder aux vignes. Donc on a dû replanter l'ensemble du vignoble sur une porte-greffe, c'est-à-dire la partie racinaire de la plante, importée des États-Unis, parfois croisée avec une vigne européenne, pour avoir une résistance naturelle à cette bestiole. Et ensuite, on greffe dessus la partie fructifère qui porte les fruits, les fleurs, et après les fruits, pour continuer à produire. Donc il a fallu replanter tout le vignoble successivement. Or, il existe quelques petites poches, ici et là, où des vignes pré-phylloxérennes ont survécu. J'en connais une à Madiran, chez Christine Dupri, à la branche du fond. Dans le Gers, à Plémont, il y a une vigne qui est aujourd'hui certifiée patrimoine mondial, parce que c'est une vigne qui date de 1820 à peu près, dans un village sur une commune qui s'appelle Saragachi. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais on pense parce qu'il y a un énorme bloc d'argile très dense qui empêche la bête de pénétrer. Et puis Henri Marionnet en Touraine, une vigne que j'ai visitée tout récemment, a récupéré un vigne de Romorantin qui était planté en 1820.
Et 1820 ?
1820.
Incroyable.
Et qui n'est pas du tout attaqué. Je pense que...
Il s'étonne quoi au niveau du goût ?
Alors, attendez, je vais y revenir parce que... C'est surtout les conditions. C'est un peu mystérieux dans son cas-là, mais il faut savoir que cette région de soins, autrefois, produisait énormément d'asperges. Et je pense que là, il y a beaucoup de sable dans le sol, et c'est ça qui probablement empêche. Mais ça reste un peu mystérieux. Alors, cet Henri Marionnet, lui, a eu le courage, le culot, je dirais, de planter plusieurs cépages en parcelles côte à côte, Sauvignon, Chenin, Côte et Gamay, greffé, non greffé. Et on peut là goûter la différence. Et là, ces vignes, lui, ont survécu. Or, qu'il a passé des plantes non greffées à des copains dans la Touraine, ils ont tous crevé au bout de 10 ans.
Ah oui. Bon, voilà.
Donc, on sait que on n'a pas empêché la maladie d'exister, on l'a simplement bloqué par ce système de greffage. Donc, ce qui est intéressant chez lui, qu'on peut goûter avec des vignes à peu près d'un même âge, la différence. Et ça, le parallèle que je ferais, c'est la différence entre une cigarette avant, avec ou sans filtre. C'est-à-dire que le vin est plus direct, plus entier, parfois on peut dire plus harmonieux, mais ça c'est une vision très personnelle, mais en tout cas un peu plus puissant. Pourquoi ? Parce que la sève, elle monte directement dans la plante et n'a pas à franchir cette barrière qui est une sorte de filtre qui est la greffe. Et la greffe, en général, elle est faite avec une greffe en oméga, il y a beaucoup de discussions sur ça aujourd'hui, où on préférait la greffe ancienne en V, qui est plus difficile à faire, mais qui peut-être laisserait passer la sève plus directement. Donc ça, c'est un énorme débat actuel. Après, il y a quelques poches ici et là, on parle beaucoup des vieilles vignes françaises de Bollinger, mais il faut savoir qu'ils ont régulièrement le phylloxera.
Bollinger en Champagne. Hein.
En Champagne, oui. Donc c'est des vignes non greffées, mais ils acceptent, ils ont les moyens de le faire, hein, de replanter le vignoble tous les 10-15 ans, quand le phylloxera les tue. Après, ailleurs à l'étranger, il y a des zones qui n'ont jamais eu de phylloxera. Chili, tout le Chili n'a pas eu de
100%.
Phylloxera. 100%.
Et pourquoi, David? Parce que c'est en hauteur? Parce
Je
que
pense que non, c'est pas la hauteur, c'est plutôt le contraire. C'est des vignes de plaine qu'on inondait pour irriguer, historiquement. Et puis, il y a des barrières naturelles, l'océan d'un côté, la montagne de l'autre. Donc, pas de transmission facile de cette maladie.
Philippe, un commentaire peut-être?
Et puis, en Australie, la région de Barossa n'a jamais eu de phylloxera non plus.
Il y a d'autres petits endroits,
des poches,
effectivement, de petites poches. Je pense au Portugal.
Oui, sur Quinta do Noval, dans le Douro. Et là, c'est les sols sablonneux tout en haut, derrière la maison. Et ils appellent cette parcelle, ils font un porto magnifique et très cher d'ailleurs, qui s'appelle Noval National.
National.
Et parce qu'il y a un lien direct avec le
sud
national.
Également du côté de Setúbal, au sud de Lisbonne, où il y a également le vignoble quasiment planté sur la plage. Donc il y a du sable, et là, le phylloxera n'est jamais
sable
passé.
Sable plus haut, c'est deux barrières absolument imparables contre la maladie. Mais l'intérêt de replanter, c'est purement expérimental. Certains gens, d'une manière un peu poétique, dire on va planter non greffé, on va trouver le goût de vin autrefois. C'est de la foutaise, parce qu'au fait, on ne sait pas à quoi ressembler. Les techniques ont changé, les modes culturels ont changé. Les cépages, surtout les plantes, on a perdu avec les phylloxera une quantité invraisemblable de variétés de vignes.
Variétés, quoi.
Et oui. Et
on peut trouver encore des bouteilles, par contre, de domaines qui ont replanté. Oui. Je pense à la Romanée Conti, par exemple, qui a racheté les vignes après la récolte 45.
Ça a duré jusqu'à la guerre.
Et donc jusqu'à la fin de la guerre.
Donc
tous les vins
de Romanée
Conti.
Cela dit, Philippe, goûtez ces vins-là, vous trouvez le risque, vous courez des risques parce qu'ils protègent la vigne avec la sulfate de plomb.
Ah, de plomb ?
Eh oui. On sulfatait au pied, on a injecté du plomb autour, ça tuait la bestiole, mais effectivement, ça stérilisait totalement le sol.
Romanée Conti, 1945, était sulfaté au plomb.
Jusqu'à 45.
Jusqu'à 45.
Ah oui, donc c'est... heureusement qu'on en boit avec modération, finalement. Vous voyez, on a raison de boire avec modération.
Ça naturellement, tu vois, monsieur Jourdain du plomb, quoi. David, merci pour ce beau sujet. On parle un peu de développement durable dans les vignobles français. On en est où, là? Est-ce que le vignoble français est au pas? Il a encore du boulot, Philippe Forbat, vous en pensez quoi?
Le vignoble français fait des progrès dans ce sens. Et d'une façon générale, il s'inscrit dans cette dynamique, j'allais dire, de respecter l'environnement, d'être le plus durable possible. C'est une tendance qui n'est pas que liée à la viticulture, on entend parler un peu dans tout le monde agricole. Il y a de plus en plus de démarches, ce qu'on appelle d'éco-foresterie, c'est-à-dire à réimplanter finalement des éléments naturels au milieu des vignes. Parce qu'on a essayé de rationaliser pendant une époque, parce qu'effectivement on a tractorisé, en tout cas mécanisé les choses.
La logique était productiviste.
Exactement, c'est ce qui correspondait aux besoins d'une certaine époque, et finalement on a enlevé des éléments naturels qui n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils protègent du vent, ils amènent aussi de la faune, de certaines flores, bien entendu, qu'ils développent aussi par rapport à ces différents éléments, et la remise en situation finalement telle qu'elle aurait peut-être jamais dû varier, permet effectivement de ramener de la durabilité dans la vigne.
Hélène, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on a des vignes saines en France? On sait qu'il y a parfois une polémique chez certains vignerons qui veulent garder quelques pesticides, hein, parce que parfois quand on est à Bandol ou à Bagnols, c'est pas facile de lutter contre la nature.
C'est un vrai problème, parce que on peut parfois comprendre effectivement ceux qui disent moi j'ai pas envie de tout perdre sur un coup de dé, sur une invasion, sur une grêle, ça peut complètement se comprendre. Et puis en même temps, on a tous envie d'une terre saine, de vin sain. C'est vraiment très compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a souvent eu ce débat autour du micro. C'est pas parce que la terre est saine que les vins seront bons. On peut avoir des vins bio, biodynamiques ou nature parfaitement immondes, et d'autres parfaitement délicieux. On est bien d'accord.
Sur l'étiquette vin immonde ou vin délicieux, comme ça.
Voilà. Bon, c'est pas approuvé par Hélène Pio ou dégueulé par Hélène Pio. Ouais, non. On a dit que ça, on le disait pas. C'est vrai que ce problème des vins propre ou pas, on a envie aussi que nos vignerons soient en pleine forme, y compris et surtout ceux qui ont des vignes à 5 mètres des écoles.
Oui.
Je suis pas sûr qu'on arrive à trancher le débat de façon manichéenne et facile. Hein.
Oui, David Cobol, vous en pensez quoi?
Je pense qu'il faut.
En tout cas, ça va mieux quand même en France. Il y a beaucoup moins de choses.
Il faut quand même parler d'un sujet et d'un processus qui s'appelle la haute valeur environnementale, la HVE, qui est promue par le ministère de l'Agriculture, qui s'applique à toute forme d'agriculture. Et le vignoble qui est le plus en avance sur ça, c'est le vignoble bordelais. C'est là où il y a le plus grand monde converti. Et là, on mesure l'ensemble du processus et le résultat. D'accord. C'est pas simplement ce qui se passe dans la vigne, mais ce qui se passe sur l'ensemble de l'exploitation, c'est-à-dire l'introduction des arbres qui peuvent héberger des prédateurs naturels, la qualité de l'eau, la qualité de la terre. C'est pas simplement ce qui se passe dans la vigne et dans le chai, ce qui est le cas de l'agriculture bio. Donc, quelque part, les deux démarches sont complémentaires. L'approche bio, c'est-à-dire traiter moins, mais aussi on accepte, on a achevé autre, des traitements de matières synthétiques, parce que moi, je ne suis pas contre les matières synthétiques. Les matières synthétiques sont pas parce qu'ils sont synthétiques qu'ils sont dangereux.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, les produits biologiques et les produits biologiques peuvent être dangereux. Le cuivre, c'est dangereux. Le soufre à haute dose, c'est dangereux. Et puis les histamines qui peuvent être engendrées aussi. Donc cette affaire est complexe. Je crois que on a trop tendance à le stratifier en disant bio c'est bon, pas bio c'est pas bon. C'est beaucoup trop simpliste cette approche-là. Mmh. Et la démarche HVE3, parce que la seule certification viable, il y a des approches progressives, il y a le niveau 1 et le niveau 2, mais pour le revendiquer, il faut être du niveau 3.
Merci beaucoup Hélène Piau, David Cobol et Philippe Faubrac. Merci également à Angéline et à Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Un joli programme. On parlera notamment du château de la Rivière, du cépage Gros Plan et des secrets de la clairette. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.